j'ai choisi de m'interroger sur le sens du lieu où Jésus est né. Et cela est plus signifiant qu'il n'y paraît. On sait en effet qu'il est né dans la ville de David, c'est-à-dire qu'il est né à Bethléem et non pas à Nazareth, d'où sa famille venait. C'est déjà quelque chose qui a du sens et cela est même indiqué par le texte. L'Évangile fait naître Jésus à Bethléem parce que c'est la ville de David. En effet, c'est là que le roi David habitait, c'est là qu'il avait été élevé. Et la tradition juive disait que le Messie devait être un fils de David, un descendant de David, et donc il était important qu'il naisse à Bethléem, la ville de David. Ainsi que Jésus naisse à Bethléem, nous le présente comme un candidat tout à fait optimal pour le rôle de Messie, descendant de David. Ensuite, ce voyage, qui est donc imposé par les événements, puisque finalement Jésus n'habitait absolument pas à Bethléem, ce voyage entraîne autre chose qui a du sens. C'est que l'on se rend compte que Jésus naît alors que sa famille était en voyage. Cela n'est pas sans signification non plus, parce que l'Ancien Testament et même toute la Bible nous dit que le voyage est une chose essentielle et il présente le peuple d'ailleurs comme étant sans arrêt en voyage entre l'Égypte et la terre promise et pendant 40 ans dans le désert le peuple voyage. Jacob lui-même se définissait en disant « Mon père était un araméen nomade ». Et les chrétiens ont repris cette idée du voyage avec la notion de pèlerinage. Et donc de tout temps, on dit aux chrétiens qu'il faut faire des pèlerinages. Malheureusement, cela a été trop codifié, comme s'il fallait forcément aller dans telle ou telle ville dans le monde. Mais ce qui était essentiel, c'est de dire que le chrétien doit être sans arrêt en voyage. Et ce voyage, c'est un voyage intérieur, c'est-à-dire faire l'effort de sortir de soi-même, de sortir de ses certitudes, de sortir de son confort, pour aller ailleurs, pour aller dans un endroit que j'ignore, avec l'aide de Dieu et conduit par Dieu, conduit par l'Esprit. Et donc, effectivement, je crois que Jésus peut naître dans notre vie si nous acceptons de nous mettre en marche, c'est-à-dire d'être en route et de cheminer. Donc, Jésus naît au cours d'un voyage. C'est pas très confortable, mais c'est néanmoins une chose absolument essentielle. Après, on nous dit aussi, d'après le texte, qu'il naît dans une crèche, dans une ferme, en quelque sorte. Les mauvaises langues disent que c'est la raison pour laquelle Jésus ne pourrait pas naître aujourd'hui à Paris, parce que le texte nous dit que Jésus naît dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie. Et les mauvaises langues donc disent qu'aujourd'hui, Jésus ne pourrait pas naître à Paris parce que Marie n'aurait pas trouvé de place en crèche. Mais c'est se tromper sur le sens de la crèche, bien sûr, puisque la crèche ne désigne pas un lieu où on met les bébés, mais désigne une mangeoire. Donc Jésus, effectivement, naît dans une mangeoire parce que, nous dit-on, il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Là encore, le message est assez clair et je pense que n'importe quel lecteur devine la signification de cette chose. On voit bien, comme d'ailleurs au moment de Noël, des tas de foules qui s'agitent pour des questions purement humaines et terrestres et que quand il y a cette agitation terrestre, eh bien, il n'y a plus de place pour Jésus. Et finalement, il peut y avoir beaucoup de monde et même dans beaucoup de monde, on peut justement se sentir seul, parce que le monde ne donne pas la seule vraie présence précieuse qui est celle du Christ. Alors, l'agitation mondaine, l'activisme, le fait de remplir son emploi du temps, d'activité, de voir beaucoup de monde, de sortir tout le temps, ne permet pas d'accueillir celui qui est important d'accueillir et qui est Jésus. Voire même, on peut dire que précisément, ce n'est pas, je dirais, par dépit que Jésus naît dans cette crèche bien tranquille, mais c'est parce qu'il ne peut pas naître ailleurs. Effectivement, le monde et l'agitation chassent le Christ. Et d'ailleurs, certains exégètes, en regardant de près le texte, disent que ce n'est pas ce que l'on pense. Il ne serait pas écrit il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Le sens me semble bien, mais néanmoins, on peut y trouver autre chose. Et certains disent que ce que cela veut dire, c'est que Marie a considéré que cette hôtellerie n'était pas une place pour Jésus. C'est-à-dire qu'elle aurait très bien pu y aller, mais Marie avait la sagesse de penser que ça ne peut pas être dans l'agitation du bruit et de la foule que Jésus peut naître. Ce n'est pas une place pour lui. Pour que Jésus puisse naître, il faut qu'il y ait de la tranquillité, de la simplicité et du silence. Alors, c'est ce que font tous les chrétiens, normalement, même dans l'agitation de Noël et dans l'agitation de leur vie, de trouver le moyen d'avoir un moment de repos, de silence, de tranquillité, et de ne pas toujours être dans l'agitation et dans la fébrilité, pourrions-nous dire. Et c'est même encore plus de choses que cela, bien sûr. Parce que, non seulement Jésus ne naît pas dans l'auberge, avec tous les bruits des fêtes et l'agitation, mais on nous dit qu'il naît donc dans une crèche, c'est-à-dire dans une mangeoire. Alors là aussi, c'est un peu cousu de fil blanc. Et le sens premier est assez simple. On va dire que Jésus ne naît pas dans un lit à baldaquin doré, mais qu'il naît dans la plus grande humilité, dans le plus grand dépouillement, sur de la paille, en quelque sorte. Je crois que c'est important, et c'est là un message d'espérance, bien sûr, pour les plus pauvres, de dire, voyez-vous, le Christ ne naît pas forcément dans les tapis de grande soie, il ne naît pas forcément dans les palais et dans les châteaux. Le Christ peut naître même dans les endroits les plus simples et les plus pauvres, voire les plus misérables. Et Jésus peut naître même dans les situations, d'exclusion, puisque Jésus et Marie sont les premiers exclus, en quelque sorte. Il n'y a pas de place pour eux, allez, dégagez, il ne reste plus qu'un peu, de paille dans une ferme. Eh bien, c'est là que Marie va et c'est là que Jésus naît. Donc il y a un message d'espérance. Le problème, c'est de savoir jusqu'où on va dans ce message. Et est-ce que l'on doit dire que c'est non seulement un message d'espérance, mais que cela dit même que c'est la condition pour que Jésus puisse naître. Et que la condition pour que Jésus puisse naître, c'est d'être justement dans le silence et la tranquillité de cette étable, et puis aussi dans la pauvreté, en quelque sorte, de cette paille, de cette indigence dans laquelle il n'y a rien. Je l'ai souvent dit, je ne crois pas que le statut matériel de notre existence compte pour beaucoup, pour accueillir ou non le Christ, mais que ce qui est vrai, c'est que pour accueillir le Christ, il faut, d'une certaine manière, se sentir soi-même pauvre. Et si on se croit soi-même bourré de tout, il n'y aura plus de place pour le Christ et on n'accueillera rien. C'est pourquoi, d'ailleurs, Jésus dira, c'est sa première parole publique, d'après Matthieu, dans le sermon sur la montagne, « Heureux ceux qui sont pauvres dans l'esprit, car le royaume de Dieu est à eux. » Donc, heureux celui qui, au lieu d'essayer de s'appuyer sur sa richesse, sur le nombre d'amis qu'il a sur Facebook ou ailleurs, il dit « bien moi, je suis pauvre et je suis seul et j'ai besoin d'un ami, c'est Jésus. Et je suis pauvre parce que dans ma vie, il y a du manque, des choses que je n'ai pas et je me tourne vers Dieu, vers le Saint-Esprit pour avoir ce que je n'ai pas. » Ça, je crois que c'est vrai. Et donc, effectivement, ce n'est pas un hasard si Jésus naît dans cette dans cette crèche. Et puis dans cette crèche, il y a, c'est vrai, ce côté rapport avec les animaux. Les animaux ne sont pas nommés explicitement dans l'évangile de Luc. Néanmoins, c'est bien le lieu des animaux, puisqu'on est dans la crèche, c'est-à-dire dans la mangeoire des bêtes. Si j'avais un penchant écologique, je pencherais pour dire que peut-être y a-t-il aussi cette nécessité de retrouver le contact avec la création et avec la créature, et que parfois les artifices humains nous éloignent de la création et finalement nous éloignent de Dieu. Et donc tout ce qui nous permet de retrouver peut-être un contact avec les animaux, oui, avec les bêtes, avec la nature, nous permet certainement d'avoir une relation plus naturelle et plus directe, je dirais, avec la vie, avec ce qui est l'essence même de la vie. Bon, peut-être que là, je tire l'évangile un peu loin, je ne sais pas, je le laisse comme une question, c'est-à-dire de quelle manière les animaux, en quelque sorte, peuvent être pour nous une source d'évangélisation. On nous dit que Saint François d'Assise prêchait aux oiseaux. Moi qui aime les animaux, je pense que parfois les animaux nous prêchent aussi beaucoup de choses et nous font comprendre des choses sur la vie que nous avons tendance à oublier. Mais je crois que là je m'éloigne un peu du texte, ou en tout cas de son, je dirais, de ce qu'il voulait dire. Ce qui me semble certainement plus juste dans cette allusion à la crèche, parce que, une fois de plus, je crois que ce texte est réécrit en quelque sorte, ou en tout cas, Luc, en écrivant ce texte, avait une intention derrière la tête. Ce que je crois plus vrai, c'est que cette allusion à la crèche et cette allusion au bœuf et à l'âne, qui seront cités un peu plus tardivement dans la tradition chrétienne, même s'ils ne se trouvent pas dans l'évangile de Luc, ils sont néanmoins présents dans un texte essentiel, qui est le texte d'Ésaïe. En effet, le livre d'Ésaïe s'ouvre sur cette affirmation très importante que le peuple est devenu rebelle et que le peuple, justement, a perdu le contact avec son Créateur. Et il dit, c'est dommage parce que même le bœuf et l'âne se souviennent de leur maître et eux, ils savent ce qu'est leur maison, ce qu'est leur crèche, leur mangeoire, et ils savent qui est leur maître. Mais, dit-il, le peuple, c'est-à-dire nous, l'humain, finalement ne sait plus d'où il vient, ni qui est son maître. Et, dit Ésaïe, c'est une chose très grave. Et par conséquent, il y a là, justement, dans ce récit, je crois, de Noël, cette opposition entre ceux qui perdent leurs racines, ceux qui perdent le contact avec leur Créateur, et Jésus qui, lui, comme le bœuf et l'âne, se souvient qui est son maître et se souvient qui est son Créateur. C'est une chose importante, je crois, pour nous, de savoir qui est notre Créateur, de se souvenir de celui qui est notre maître, et que sinon, nous risquons d'être comme des gens sans foi ni loi, sans Dieu ni maître, et qui finalement, n'ayant plus de racines, plus de raison d'être, plus finalement deviennent totalement désarticulés dans un monde et ne peuvent plus mener qu'une vie d'errance qui n'a ni départ, ni fin, ni origine, ni objectif. Donc certainement, ce bœuf et cet âne sont là pour, je dirais, aller dans le sens de cette agitation de l'hôtellerie dans laquelle Jésus ne peut pas naître et ne doit pas naître, et cette agitation qui est agitation parce qu'elle n'est plus centrée sur rien. La foi, c'est d'accrocher sa vie sur un centre, sur un pôle, sur un socle, sur un fondement qui est notre Créateur. Et d'un point de vue évangélique, nous sommes invités à accrocher notre vie non plus tellement sur l'idée d'un Dieu créateur, ce qui est l'idée de l'Ancien Testament avec la Genèse au départ, mais sur l'idée d'un Dieu de grâce et d'un Dieu qui nous aime et d'un Dieu qui s'offre à nous. C'est le message de Noël. Et il y a donc une grande différence, dirais-je, entre la Genèse, qui justement présente l'origine comme le Dieu créateur, et l'Évangile, qui nous présente l'origine comme un enfant qui nous est donné, c'est-à-dire comme une grâce qui nous est offerte, comme une vie qui nous est donnée. Bien sûr, l'un n'exclut pas l'autre, et il faut se souvenir que Dieu est notre Créateur, mais ensuite, d'un point de vue évangélique, se souvenir de réaccrocher notre vie sur le fait que la vie, que dans notre vie, l'essentiel est offert et est un cadeau. Mais ça n'est pas tout encore, parce que jusqu'à présent, tout ce que je vous ai dit, vous auriez pu le trouver. Pour aller plus loin, il faut connaître un peu d'hébreu, et je vous demande pardon pour cette pédanterie que je vais faire devant vous. En effet, pour n'importe quel hébraïsant, cela est une chose extrêmement curieuse, parce que Jésus naît à Bethléem, or Bethléem, c'est un mot commun en hébreu. Beth, c'est la maison, et l'arem, c'est le pain. Et donc Jésus naît dans un lieu qui s'appelle la maison du pain. Bon, Bethléem, c'est comme ça qu'on appelle les boulangeries à Jérusalem aujourd'hui, si vous voulez. C'est la maison du pain, voilà. Donc je retiens, Jésus naît dans la maison du pain. Et puis Jésus naît dans une crèche. Alors la crèche, ce n'est pas un endroit où on met les bébés normalement. La crèche, je vous l'ai rappelé, c'est une mangeoire. Et donc Jésus naît dans une mangeoire, dans le lieu qui s'appelle la maison du pain. Alors ne me dites pas que c'est quand même un hasard, cette histoire. Alors que justement, Jésus va se présenter lui-même ensuite comme étant le pain de vie. Et il dira, je suis le pain vivant qui descend du ciel, celui qui me mange vivra éternellement. Et donc Jésus, c'est le pain vivant descendu du ciel. Et il naît déjà au départ, pré-programmé pour être le pain venant du ciel que l'on doit manger. Et ce sera accompli dans le dernier repas qu'il prendra avec ses disciples, quand il dira, il tendra du pain en disant « Prenez et mangez, ceci c'est mon corps ». Et du coup, je crois que nous avons là-dedans quelque chose qui est comme le mode d'emploi de Jésus. En effet, le petit Jésus nous est donné. Bon, ben merci Seigneur, on est très content. Maintenant, qu'est-ce que nous allons en faire de ce petit Jésus? Eh bien, le mode d'emploi est dedans. Ce Jésus, si vous le laissez dans sa crèche, il ne vous apportera rien. C'est comme si on vous offre le plus beau des matériels électroniques, si vous ne le branchez pas sur une prise ou si vous ne lui mettez pas de courant, si vous ne l'utilisez pas, il ne vous servira à rien. Et je dirais, sans être utilisé correctement, un objet est inutile. Le Christ aussi, c'est un beau cadeau, merci Seigneur. Question, qu'en ferez-vous? Quel est le mode d'emploi? Le mode d'emploi, c'est justement de le prendre et de le manger. C'est-à-dire de prendre ce Jésus pour le mettre en soi, d'en faire la nourriture de sa vie, d'en faire la source de sa force, de son existence, de sa joie, d'en faire son pain quotidien, en quelque sorte. Et c'est ça, et c'est ce pourquoi Jésus est venu et ce pourquoi il est né. Et puis encore, on nous dit que ce bébé, il est emmailloté. Et ensuite, ce sera redit d'ailleurs au berger. On nous dit, vous trouverez un signe, ce bébé, il est emmailloté. Alors là, c'est moins théologique, mais ça m'a intéressé aussi de dire que ce bébé, il est comme emballé. Emballé, enroulé dans des machins, dans des langes, dans des tas de trucs. Un peu comme d'ailleurs les cadeaux de Noël de vos enfants. Et un cadeau de Noël, c'est pareil. Pour en profiter, il faut le déballer. Et Jésus, il est emmailloté. Donc nous avons là un cadeau qui est donné, et tant qu'on ne le déballe pas et qu'on ne le met pas pour le manger dans notre vie, il ne servirait à rien. C'est donc ça ce pourquoi nous sommes invités à faire avec le Christ, c'est à déballer ce Christ. Le déballer, c'est-à-dire essayer de retrouver ce Christ en retirant tout ce qui le masque. Et tout ce qui le masque, ce peut être beaucoup de choses. Je pense que chacun de nous avons des emballages qui masquent le vrai Christ et qui viennent, je crois, le plus souvent de nos idées fausses concernant le Christ. Idées fausses que nous avons imaginées ou idées fausses qu'on a reçues du temps de notre catéchisme parce que cela ne convenait pas à notre personnalité, en quelque sorte. Mais il faut déballer le Christ et donc le débarrasser de tout ce que l'on a mis autour pour compliquer l'affaire. Jésus, c'est simple, c'est une petite vie, je dirais, qui vous est donnée, qui vous est offerte, c'est une boule d'amour qui vous est donnée par Dieu. Eh bien, il faut commencer par comprendre cette réalité, ce qu'elle est, pour la prendre telle qu'elle dans nos vies, et pour nous en nourrir, pour nous en abreuver, et pour en faire la source de notre vie, de notre joie et de tout notre être. Ainsi, voyez-vous, Noël n'est pas un spectacle auquel on assiste, mais Noël, c'est, je dirais, un événement auquel nous sommes invités à participer. Amen.